Bonjour mes amis. Je vais vous raconter une histoire qui va nous interpeller pour nous chercher à savoir à qui ressemblons-nous. Il y a quelqu'un qui devait faire un voyage pour aller en vacances dans un contrée très lointain. Et il avait en lui deux adresses. La première adresse, celle que le serviteur lui avait donnée. Mais après quelque temps, il semble que les parents, là où ils devaient aller en vacances, ont déménagé. Ainsi, ils ont envoyé une nouvelle adresse. Maintenant, il va prendre son train pour aller là-bas. Quelle adresse crois-tu qu'il doit suivre ou il doit dire au taxi de le diriger pour rencontrer ses parents? N'est-ce pas la nouvelle adresse? Regardons maintenant si nous faisons la même chose. Entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Suivez ce message et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur, je reviendrai pour partager un peu cette parole. À qui nous ressemblons? Comment vivons-nous? Avons-nous compris le message de notre Seigneur? Avons-nous compris la volonté de Dieu? Essayons un peu d'écouter ensemble et que chacun de nous puisse chercher sa vraie position à l'égard de Dieu au travers de la parole qu'il nous a donnée. Dans le livre des Hébreux, il est écrit, dans chapitre 8, au verset 13, il est écrit ceci, il a été dit une nouvelle alliance. Et si il a été dit une nouvelle alliance, Dieu venait de déclarer la première alliance à sienne. Or, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli et prêt à disparaître. Si la sienne avait été capable de nous conduire dans la vie et dans la réussite, il n'aurait pas été question d'introduire une seconde. Mais si elle a introduit une seconde, elle a déclaré la première incapable de pouvoir nous sauver, incapable de nous donner la véritable vie. Comment traitons-nous aujourd'hui la parole de Dieu? Ce message est écrit dans le livre de chacun. Partout où l'homme est, se trouve avec ça, et il lit et il vit. Et en vivant, il se trouve également que comme s'il n'a pas saisi le sens de la parole de Dieu. Et si c'est le cas, à qui ressemblons-nous? Je vais essayer de prendre un petit exemple. Nous sommes des enfants. Peut-être, disons, nous sommes au nombre de 12. Ça pouvait être aussi 14 ou 15. Nous avons un seul père. Il est arrivé un certain moment où les parents ont décidé le déménagement. Ils ont pris une nouvelle maison pour des raisons qu'ils savent. Peut-être qu'on était devenus trop nombreux ou que la maison a vieilli et ne pouvait plus nous abriter. Nous ne pouvions plus respirer comme bon il le faut. Alors les parents, ils ont décidé le déménagement. Et voilà. Le temps de déménagement arrive. On commence à déménager. Les parents prennent des affaires. Tout ce qui est de cette maison encore récupérable, on commence à prendre ça pour apporter ça dans la nouvelle maison, dans la nouvelle habitation. Mais seulement voilà, au même moment qu'on est en train de sortir des objets, des affaires de cette maison, il y a quelques enfants. Eux ne suivent pas ce que les parents font. Ils sont allés encore s'acheter certaines choses pendant qu'on déménage et ils introduisent ça dans leur chambre. Bon, j'ai acheté une nouvelle table et il va mettre dans la chambre. J'ai acheté une cuillère, j'ai acheté ceci ou cela, j'ai acheté un petit tabouret. Pendant que les autres sortent, eux, ils entrent. Et à un certain moment, le père voit et dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis en train de ranger ma chambre, mais nous sommes en déménagement, mon fils. Ah, mais non, mais moi, ma chambre, c'était pour ma chambre. Mais nous sommes en déménagement. On n'habitera plus ici. Voilà un peu la confusion que nous avons. Je réfléchis très souvent. Et des fois, quand je regarde les Écritures et je regarde ceux qui tiennent la parole, et surtout ceux qui prêchent et transmettent le message pour que les hommes écoutent, mais il faut une confusion. Une confusion parce que la parole nous dit, tel que nous venons de lire là dans ce livre des Hébreux, pour le Seigneur, ceux qui étaient avant ne pouvaient pas nous donner la vie. C'est pourquoi Dieu a décidé d'introduire une seconde. Donc, tout a changé. L'ordonnance a changé. La loi a changé. Tout a changé. Sinon, le procédé n'est plus le même. Hébreux au chapitre 7, à partir du verset 11, il est écrit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, ça veut dire de la sienne, c'est ce que chaque dimanche, chaque fois qu'on prêche jusqu'aujourd'hui, parce que ceux qui les ont enseignés sont incapables de faire la différence entre ce qui est ancien et ce qui est nouveau. Ils ne savent pas faire la différence entre quand le serviteur Moïse parlait et le Fils de Dieu vivant est venu conclure pour montrer le véritable chemin. Ils ne sont pas capables. Ils prennent tout. Et ils le mettent, c'est-à-dire que tout en étant adulte, on continue à distribuer du lait aux adultes et dire voilà, c'est votre dîner. Non, ça c'était quand on était enfant. Maintenant, les choses ont changé. Quand comprenons-nous cela? Et c'est parce que si vous suivez cela, alors certainement tu vas te perdre. Tu vas te perdre parce qu'il s'est passé quelque chose déjà. Comme le livre d'Hébreux le dit à partir du 7-11 aussi, et si la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Cette parole nous dit tout simplement qu'il y a un autre sacrificateur qui est apparu. Non pas selon l'ordre d'Aaron. Quel était l'ordre d'Aaron? L'ordre d'Aaron a été la tribu de Lévi, le fils de Jacob Lévi et sa descendance. C'est à eux que Dieu avait attribué le ministère de faire sacrifice envers Dieu. C'est eux qui faisaient l'office de pasteur, de prêtre auprès du peuple Israël. Mais Dieu a disqualifié cela parce que Lévi avait reçu l'ordre de donner des sacrifices des animaux. Or, Dieu étant intervenu, il a dit que ce ne sera pas le sang des animaux, des boucs et des taureaux qui vont effacer la racine du péché. Cette fois ici, il introduit un autre sacrifice, son propre fils, avec un sang sans tache, un sang du Fils de Dieu. C'est avec cela que nous avons maintenant la rémission du péché. Et alors, la parole s'interroge. Mais pourquoi, si le sang des agneaux et la sainte culte étaient valables, mais pourquoi pensez-vous que un autre sacrificateur est intervenu selon l'ordre de Melchisédek? Le sacrificateur Melchisédek a une très grande différence avec la descendance d'Aaron ou Aaron lui-même qui fut le premier prêtre. Melchisédek était sans généalogie. Il n'appartenait à aucune tribu. Il n'est pas venu de tout cela. Personne ne sait où il est venu. Il est au fait le prototype de Christ en son temps portant le nom de Melchisédek. On aurait pu l'appeler aussi le Christ. Comme Christ a côtoyé le peuple Israël un peu partout et a apparu aussi à beaucoup sans être appelé Christ, mais il était là. Le livre de 1 Corinthiens au chapitre 10 nous dit. C'est lui qui accompagnait le peuple Israël dans le désert. C'est le rocher là qu'on frappait pour que l'eau jaillisse. Il était là, le serpent de reins qu'on a élevé et qui guérissait tout ce qui était mordu par le serpent. Il était là aussi, celui qui ordonnait à la manne de tomber. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Nous devons aussi changer. Nous devons entrer dans la nouvelle maison. Nous devons suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus-Christ a dit que désormais les choses ne seront plus comme avant, si Jésus-Christ a dit, il est écrit dans l'ancien livre que l'œil pour œil et que moi je vous dis, pardonne à vos ennemis, pardonne, mais nous devons le suivre. On ne peut pas venir dire en même temps, oui, c'est œil pour œil, et puis, ah non, cette fois-ci je fais, et demain, non, c'est écrit œil pour œil. Quelle confusion! Pourquoi mettre la confusion là où il n'y en a pas? Pourquoi risquer de se trouver écarté de Christ alors qu'on n'a qu'une seule vie et trop peu de temps pour nous rectifier? Le livre des Hébreux, au chapitre 7, verset 12, dit ceci: car les sacerdoces étant changés, nécessairement, il y a un changement de loi. Je répète cela. Quand les sacerdoces étant changés, le culte étant changé, la manière de se présenter devant Dieu étant changée, et que la façon de prier étant changée, et la manière d'honorer Dieu étant changée, alors nécessairement, il faut aussi qu'il y ait un changement de loi. Cette nouvelle loi nous permet de nous d'approcher Dieu. Si vous maintenez la loi ancienne, le culte ancien, et alors aucun de nous n'aura le droit de s'approcher, car le Dieu ancien était le Dieu des Juifs et que nous étions païens. Si aujourd'hui nous disons notre Père et notre Seigneur, c'est parce que dans la nouvelle loi qui est introduite, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus d'étrangers. Mais nous sommes tous un à la fois en notre Seigneur Jésus-Christ. Notre nouvelle carte d'identité est la foi à la nouvelle alliance, la foi au nouveau sacrifice de Jésus-Christ, la foi à la résurrection de Christ. C'est ce qui fait de nous aujourd'hui une nouvelle famille de notre Dieu. Comme le dit dans le verset 12, car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Un changement de loi. Ceux qui ne comprennent pas sont entrés pendant que les autres déménagent de navire parce que l'autre va couler et ils continuent à mettre des affaires dans le navire qui ne va plus naviguer, qui a été déclassé comme déchet ancien et qui doivent abandonner. Peut-être qu'on va mettre le feu. Hébreux 7, verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et son inutilité. Dieu du ciel déclare ce Christ impuissant et inutile. Inutile. Mais quand on dit inutile, c'est à croire qu'aujourd'hui, les armes ils ont changé. Et voilà que quelqu'un est en train d'entraîner les gens pour se battre avec les épées. Vous allez vous mettre devant les gens qui ont des mitrailleuses, qui ont des armes modernes. Qu'est-ce que c'est une histoire? Est-ce qu'on voit ou on ne voit pas? Les choses ont changé. Le verset 19 du chapitre 7 du livre de l'Hébreux, car la loi n'a rien amené à la perfection et en est introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. C'est cette espérance que nous avons en Jésus-Christ, qui lui est le fils de Dieu. Moïse était serviteur de Dieu. Donc il ne pouvait pas avoir accès à tout ce qui concerne Dieu, mais le fils l'est. Il a accès à toutes les cellules de Dieu, car il a dit lui-même, qui m'a vu a vu le Père. Moïse ne pouvait pas dire, qui m'a vu a vu Dieu. Il n'a jamais à aucun moment appelé Dieu Père. En aucun moment. Tout simplement parce que les choses étaient au stade de l'introduction. Si aujourd'hui nous lisons cela, nous lisons pour connaître l'historique, mais nous ne lisons pas pour que nous pratiquions cela, car celui qui pratique cela comme la Bible le dit, la lettre tue. Et alors, il y aura la mort là-dedans. C'est-à-dire, malgré les efforts, malgré la volonté, il se trouve que le Seigneur dit, je vous ai cherché, je ne vous ai pas trouvé. Oh oui, mais nous, on était avec Moïse. Ben Moïse, ce n'est pas lui le sauveur. Il était le sauveur de peuple Israël dans l'esclavagisme en Égypte pour représenter ce que Christ allait faire par la suite, la liberté de l'âme et de l'esprit. Ce n'est pas la même chose. Et même quand Jésus-Christ fut enterré, les trois jours qui se sont passés, il est descendu aux abîmes pour trouver Moïse, pour trouver Abraham, pour leur dire que ce qu'ils attendaient, il est déjà venu et qu'il a payé le prix. Grâce à cela, ils les ont sortis de ce jour de mort. Autrement, ce n'était pas possible. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ. Le culte qui est raisonnable, qui plaît à Dieu aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir père juif et maman juif. Aujourd'hui, le culte raisonnable, c'est ceux qui ont accepté le Christ et qui ont dit oui à Jésus-Christ. Et étant ainsi de Jésus-Christ, et que tu es mort quant à la chair pour vivre par l'esprit, conformément aux enseignements de Christ, ce sont ceux-là que Dieu compte, car en eux, il a mis de son esprit. Il a mis de son esprit. Et même malgré cela, est-ce que le monde comprenne au moins ce que signifie avoir l'esprit de Dieu en vous? Est-ce que nous comprenons cela? Quelque part, Jésus a lui-même déclaré dans Jean 10 au verset 35, « Si la parole de Dieu a appelé Dieu, ce à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'Écriture ne peut être anéantie. » Il a dit ça pourquoi? Pourquoi me reprochez-vous quand je dis que je suis fils de Dieu, alors que Dieu lui-même a dit, on vous appellera de Dieu à cause de mon nom. Ceux dont la parole a été destinée, Dieu les a élevés au titre de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous voyons que nous sommes devenus semblables à Dieu. Mais quand Dieu dit quelque chose, il le dit. C'est à cause de cela que les démons tremblent devant les enfants de Dieu. Parce que nous sommes des dieux. Jésus n'a pas hésité de dire « Qui m'a vu, a vu le Père ». Et pourtant, dans 1 Corinthiens 45, nous pouvons vivre quelque part, Dieu a tout soumis à Jésus-Christ. Mais s'il a tout soumis, il ne s'est pas lui-même soumis à Christ. C'est-à-dire, il est accepté de cette soumission. Il reste le Père. Et Christ, au dernier temps, viendra lui-même se soumettre au Père, car le Père est le Père. Mais n'empêche qu'il l'appelle Dieu. N'empêche qu'on le voit, on voit qu'il représente Dieu. Pointez du doigt sur Christ. Tu as pointé ça devant le Père. Et ce n'est pas le Fils qui va te répondre, c'est le Père qui va réagir. Car il tient à ce qu'on adore. Il a donné l'ordre à ses anges. Nous sommes prêchés, l'Évangile est pour nous. Et pourtant, l'ordre a été donné au ciel, que tous les anges de Dieu l'adorent. Qui? Jésus. Pourquoi? Celui qui a vu Christ, il a vu Dieu. Et alors, comme il a dit comme ça, la parole reste comme telle et personne ne peut changer. Bien-aimé, c'est vrai, c'est bien de travailler et de bien travailler et de faire la bonne semence parce que nous nous attendons à une bonne récolte également. On ne peut pas suer pour rien. Je ne peux pas transpirer pour rien. Nous ne nous battons pas avec l'injustice, avec le diable pour rien. Il faut qu'il y ait une rémunération. Mais il faut que nous combattions selon les règles. On ne devient pas champion de football en dehors du stade. On ne devient pas champion de boxe en dehors du ring. Il faut que ça se passe devant tout le monde, dans le lieu où ça a été préparé. Nous ne pouvons pas nous créer un petit combat dérisoire à côté pour dire c'est là. Non, il y a un lieu où Dieu a choisi et c'est dans ce lieu-là que les combattants doivent combattre à la règle. Et ce lieu, c'est en Jésus-Christ, dans lui. Quiconque qui se crée un autre chemin, quiconque qui écoute le pharisianisme pour dire « Oui, mais c'est Dieu, c'est vous êtes dans la distraction, vous vous êtes égaré. C'est vous qui dites que c'est la même chose. Ce n'est pas Dieu qui dit la même chose. C'est vous-même qui dites que c'est la même chose. C'est vous-même qui traitez cela. Oui, ça aussi. Mais ce n'est pas Dieu, ne l'oubliez pas. Car Dieu a été clair dans sa parole. Il a été clair. Le verset, chapitre 7 du livre d'Hébreux, au verset 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu, c'est celle de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur a fait. Et nous savons maintenant où est le salut. Nous savons maintenant, nous ne nous précipitons pas pour entrer dans l'arche de Noé, mais nous nous précipitons d'entrer dans la nouvelle arche. Cette arche qui était construite aujourd'hui, c'est le corps de Jésus-Christ qui est venu aujourd'hui en signe de l'arche de Noé qui a sauvé les gens des eaux. Aujourd'hui, oui, c'est cette arche de Jésus-Christ dans laquelle nous sommes. Si toutefois nous sommes en communion avec les nous, si jamais nous sommes entrés dans lui, alors nous serons sauvés. L'air est grave parce que le temps passe. Voyez-vous, chaque jour est un pas vers la fin. Chaque jour, c'est un pas vers la fin. Et il y en a d'autres qui regardent ailleurs. Nous sommes en train de faire exactement le travail de ces enfants qui ne comprennent rien. Pendant que les enfants, les parents sortent des affaires parce qu'il y a déménagement et ils vont acheter des choses. Il arrivera un jour qu'il arrive encore avec ses bagages et la maison, les portes ne sont plus. Où sont les parents? Mais on a changé de maison. Mais je suis venu amener mes affaires, mais plus ici. Nous ne sommes plus de temps de ces temps-là. Déménageons avec notre Seigneur. Suivons maintenant le nouveau chemin. Suivons le nouveau culte qui, lui, ne réclame pas le judaïsme, mais réclame la sincérité du cœur, la confession du cœur. Nous devons donc fondre avec Christ pour n'en devenir qu'un seul au Dieu de notre paix, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas plus regardés comme par le passé. Dieu voit Christ et nous en Christ. C'est que nous tous, nous portons le nom de Christ, car nous sommes devenus ses membres. Il n'y a que Christ qui sera passé et ceux qui sont attachés à lui. Tout le reste, impossible, impossible. On ne peut pas inventer, il n'y a pas de mains, il n'y a pas de ceci, il n'y en aura pas. C'est Dieu qui a parlé. Et quand Dieu parle, un homme, qui es-tu pour modifier la parole de Dieu? Ça coûtera cher à tous ceux qui détiennent l'évangile de la perdition, l'évangile de la mort. Dans le livre des Corinthiens, on décrit cela comme étant le ministère de la mort. Ils décrivent cela aussi dans le même texte, dans le chapitre 3 des Corinthiens, le ministère de la condamnation, le ministère de la malédiction. Trois mots ont été cités sur ce type de culte. Malédiction, ministère de la mort, et ministère de l'iniquité, ministère de la condamnation. Quand on l'attend, on a peur. Ça ne fait que pointer du doigt. Tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait cela. Oui, c'est comme un hôpital qui ne fait que diagnostiquer. Tu es malade, tu as le cancer et tout ça. Oui, mais soignez-nous. Nous, on ne soigne pas. On vous dit ce qu'il y a. Alors, c'est tout? Oui. Mais on aurait valu que je reste sans connaître ma maladie. Maintenant, je suis angoissé. Mais quand Christ vient, il vient pour accomplir. Ça veut dire, non pas seulement tu vois que tu es malade, mais il te guérit en même temps. Ça fait une différence. Ça fait une différence. Et ce qui est grave, on a trop peu de temps. On a trop peu de temps pour cela. Que personne ne s'imagine que, oui, je peux me permettre aussi ça. Non. Si on sait que le train va partir, ce n'est plus le moment d'aller faire tes achats pour dire que voilà, je vais. Si tu vas, tu chercheras un autre train. Et si il n'y a qu'un seul train, qu'est-ce que tu vas dire? S'il y a un seul train, ben, ton voyage est annulé. Soyons veillants, réfléchissons. C'est si simple que ça. Qu'ai-je à m'attacher à des choses du passé? Qu'est-ce qu'ils doivent de moi? La vie, je l'ai eu de Christ. Mon subsistance, je l'ai eu de Christ. Si j'ai des enfants, c'est un don de Dieu. Mais pourquoi je veux m'attacher là? Qu'est-ce qu'on peut me donner de plus? Mais qu'est-ce que vous pouvez me donner? Ils seront jugés et morts. Et qui va les sortir de là? Moïse? Jésus a dit, ce n'est pas moi qui vais vous juger, mais Moïse lui-même, parce qu'il a parlé de moi, et que vous ne voulez pas le croire. C'est parce que si vous le croyez, vous allez dû croire qu'il a parlé de moi, et vous allez accepter que ce que moi je dis est vrai. Mais puisque vous vous attachez à lui, il sera votre juge. Alors là, si Dieu se lave les mains pour dire, cela vous regarde. Et pourquoi il disait que ceux qui ont le cœur pour croire, qu'ils croient, ceux qui ont les oreilles pour écouter, qu'ils écoutent. Pourquoi il disait, ce n'est pas un bon adieu ça, hein? Ce n'est pas un bon au revoir. Si quelqu'un te dit, finalement, il ajoute, bon, celui qui a les oreilles pour écouter, qu'il écoute, cœur pour croire. C'est-à-dire, il connaît l'incrédulité, l'obstination. Cette pervenance, c'est toujours à chercher à prendre le chemin qu'il ne faut pas. C'est comme si on a une maladie des erreurs, le cancer des erreurs. On marche dans la vie, où est l'erreur? Ah, il y a une erreur là-bas. Oui, je suis candidat. Pourquoi on cherche des erreurs? Pourquoi on ne prend pas la parole de Christ? À quoi a servi sa mort? À quoi a servi son sang qui a coulé? À quoi ça sert la grâce de Dieu? Bien-aimés, si nous sommes là, c'est pour que nous comprenions ce message. Le Seigneur a dit, Matthieu 24, au verset 35, « Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Il n'a pas dit que ça ne passera pas, mais ne passeront point. Donc, il ne faut pas s'attendre, il ne faut pas s'attendre, même pas une seconde, que cette parole sera modifiée. Oh, je sais. Et n'oublions pas, nous qui sommes appelés, nous sommes à la brèche. Ton chemin et ce que tu es en train de faire, tu es l'héritier et c'est ce que tu vas laisser à tes enfants et aux enfants de ses enfants. Ça veut dire que si tu prends le mauvais bateau avec tes enfants, et voilà, ce qui t'arrivera, c'est ce qui les arrivera. Car ce sont ceux qui ont fait confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes plus en train d'essayer de faire plaisir aux hommes qu'en chercher à comprendre, à faire plaisir à Dieu. Saisissons-nous et comprenons. Comment allons-nous témoigner le Christ quand nous-mêmes nous sommes en dehors de Christ? Que le Seigneur nous conduise. Paix de gloire, je te rends grâce et je bénis ton nom ce matin. Je bénis ton nom, Seigneur, et je laisse toute l'assemblée entre tes mains. Dispose de nos cœurs, ouvre-nous l'esprit pour que nous comprenions la vraie parole, la vraie. Un jour, tu m'as dit, ne change pas. Un jour, tu m'as dit, garde cette parole. Seigneur, je sais, ce message n'est pas reçu partout. À chaque fois dans les églises, quand tu parles de ça, tu deviens l'ennemi. Jusqu'à ce qu'on va t'exclure, parce qu'ils n'aiment pas ça. Ils auraient souhaité autre chose. Et ce qu'ils oublient en modifiant la parole que tu nous as donnée, comme tu nous as prévenu depuis l'Apocalypse, n'ajoute rien, ne retranche rien. Tu as dit à Moïse, quand tu feras le tabernacle, tu le feras exactement tel que tu le décris. N'ajoute rien, ne retranche rien. Ta parole est la même. Merci Seigneur. Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, ne nous refuse pas l'entendement. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni, béni à l'éternité, à la gloire de notre Père, que nous venons de prier ainsi. Alléluia. Amen. Merci mes bien-aimés, je vous aime tous. Alors, si le Seigneur fait grâce ce soir, nous serons encore là ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Amen.